Bonjour.
Bonjour Nicolas, bienvenue à tous à la une ce matin quand une nièce des frères Klein débarque en France avec ses enfants. C'est une information France Inter. Elle a été ce matin expulsée de Turquie après un long séjour en Syrie. La fin de l'hypocrisie pour les pros, une rupture anthropologique pour les anti. C'est la PMA pour toutes qui débarque à l'Assemblée en débat à partir d'aujourd'hui. Parole de maire dans ce journal. Un avocat qui joue les procureurs dans 20 minutes. Nicolas, votre invité dénonce un gouvernement qui bafoue les libertés.
Oui, il s'agit de Maître François Sureau qui publie « Sans la liberté » chez Gallimard. Tout petit livre, brillant et brûlant, on le verra tout à l'heure. 01 45 24 7000 pour vos questions. N'oubliez pas également les réseaux sociaux ou l'application mobile d'Inter.
Dans ce journal aussi, l'Iran au centre de l'Assemblée Générale de l'ONU. Aujourd'hui, discours de Trump à la tribune, alors qu'Emmanuel Macron tente toujours une médiation. Il a rencontré le président iranien cette nuit. Le retour d'Isabelle Balkany au conseil municipal de Levallois-Perret en l'absence de son époux incarcéré. Il y avait de l'ambiance. L'arrivée du champignon tueur de platane en Île-de-France. Et Degas et l'Opéra de Paris sous toutes ses coutures. Exposition à Orsay à partir d'aujourd'hui.
France Inter.
Elles sont donc arrivées ce matin en provenance de Turquie. Deux mères et leurs enfants. L'une en a quatre, l'autre cinq. Et si on s'intéresse à l'arrivée de ces femmes ce matin, c'est que l'une d'elles est une nièce des frères Klein, haut placée dans l'organigramme du groupe État islamique. C'est vous qui nous le révélez ce matin. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour.
Les frères Klein, de sinistre mémoire, avaient entre autres enregistré la revendication des attentats du 13 novembre.
Exactement. Et l'une des femmes djihadistes de retour en France ce matin s'appelle Jennifer Klein. Elle est en effet la nièce de Jean-Michel et Fabien Klein. Tous les deux ont été déclarés tués par une frappe aérienne de la coalition lors de la débâcle de Daesh à Baghouz en février dernier. C'est 5 mois plus tard, en juillet, que Jennifer Klein a été arrêtée alors qu'elle était activement recherchée par des magistrats antiterroristes français. Ce sont des soldats turcs qui ont réussi à l'interpeller à la frontière turco-syrienne. Elle fuyait la Syrie avec ses 5 enfants alors que son mari, Kevin Gono, venait d'être condamné à mort en Irak. Lors de cette arrestation, Jennifer Klein était avec la femme d'un autre djihadiste redouté. Elle était avec l'épouse de Thomas Collange et leurs 4 enfants. Ce sont donc ces 2 femmes djihadistes et leurs 9 enfants âgés de 3 à 13 ans qui viennent d'atterrir à l'aéroport de Roissy. Les femmes ont été immédiatement interpellées par la DGSI. Les enfants placés auprès de l'aide sociale à l'enfance. Quelques 130 enfants sont ainsi rentrés régulièrement depuis 2014, selon le protocole établi par la France avec la Turquie, protocole qui ne s'applique pas au Kurdistan syrien, où des dizaines d'autres enfants français sont prisonniers des choix de leurs parents. La France n'ayant accompagné le rapatriement que de quelques orphelins et de 2 enfants dont les mères avaient accepté le retour. La commission consultative des droits de l'homme doit se prononcer aujourd'hui même sur la situation des enfants retenus dans les camps syriens.
Information exclusive signée Sophie Parmentier. Merci
Il est 8h04 et c'était impensable il y a 7 ans.
On se souvient du mariage gay, de ces mois de manifestations et de fureur d'une partie de la société française. Il faut croire que les temps ont changé puisqu'aujourd'hui la PMA pour toutes les femmes arrive à l'Assemblée dans un climat bien plus apaisé. Il y aura sans doute des débats houleux dans l'hémicycle, un défilé des anti dans 15 jours, mais rien de comparable avec les déchaînements de 2012. Juliette et Christelle, 2 femmes qui ont eu recours à une PMA à l'étranger, en sont soulagées au micro de Lise Aiguillenne.
À 43 et 46 ans, Juliette et Christelle sont les mamans du petit Mishka, 2 ans et demi. Comme beaucoup de couples lesbiens, elles sont allées en Belgique pour bénéficier d'une PMA. Pour Christelle, il est grand temps que la France se mette à la page.
Il y a cette hypocrisie de dire, on sait très bien que ça existe et de plus en plus, mais on ne fait rien, enfin jusqu'à présent, on ne faisait rien pour faciliter la situation de ces femmes qui veulent avoir un enfant. Donc c'est vrai que c'était très hypocrite.
Hypocrite, d'autant que pour son épouse Juliette, une majeure partie des Français sont prêts à accepter les parents homosexuels.
Nous, notre expérience, c'est qu'au quotidien, tout le monde s'en fout en vérité. Enfin, de temps en temps, il y a évidemment un abruti qui va dire quelque chose. Mais je pense que les mentalités ont quand même évolué, oui, parce que peut-être on est plus visible et peut-être les gens se rendent compte que ben, nos enfants sont comme les autres, aussi sympas, aussi chiants, aussi tout pareil, quoi.
Malgré tout, 2012 n'est pas si loin et le spectre de la manif pour tous reste présent dans leurs esprits.
La période des manifs, etc., c'était vraiment horrible pour moi, pour beaucoup d'entre nous.
Le problème, c'est que ceux qui vont dans la rue sont les plus bruyants et je trouve que ça prend beaucoup trop de place. Ils sont vraiment néfastes, nocifs pour nos familles. C'est très violent.
Elles espèrent que les débats iront vite cette fois pour éviter de laisser trop de place aux discours de haine. De leur côté, les anti-PMA ont déjà prévu de manifester le 6 octobre.
Et d'ici là, bien des amendements auront été discutés. Les députés en ont déposé 2500. Divisés au sein de la majorité, ils sont une douzaine à ne pas vouloir de PMA pour les femmes seules. Divisés aussi à droite, même si une grande partie des élus LR sont contre. Face à ces oppositions, le gouvernement évite de brandir son projet de loi comme un étendard politique. Alors, quels sont les vrais enjeux de ce texte, Daniel Messager?
C'est un débat présenté comme bousculant la société. Pour autant, le nombre de femmes concernées par la PMA pour toutes, c'est l'article 1er, le sujet phare, ne va concerner que 2000 femmes supplémentaires chaque année. Alors en quoi peut-il bouleverser une société? D'abord parce que dans cette assistance médicale à la procréation, on n'est plus dans le domaine de l'infertilité, la médecine interviendra dans un domaine non médical. Parce qu'on touche au droit, les deux membres du couple de femmes devront donner leur consentement devant notaire, mettant sur un pied d'égalité la femme qui accouche et celle qui s'engage à remplir un rôle parental et ne pourra se soustraire à ses devoirs en cas de séparation. Parce qu'elle répondra aux interrogations des 1400 enfants nés par don de gamètes chaque année, qui devenus adultes veulent savoir, ils pourront avoir accès à des données identifiantes. Alors oui, pour toutes ces raisons, ce texte est emblématique d'une avancée sociétale, même si elle est trop rapide pour certains ou trop lente pour d'autres, mais conforme aux principes bioéthiques.
Et aujourd'hui, trois ministres monteront à la tribune de l'Assemblée pour défendre ce projet de loi. Agnès Buzyn pour la santé, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, et Frédéric Vidard, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les débats doivent durer jusqu'au 9 octobre. Et les travailleurs, sont-ils prêts pour la fin des régimes spéciaux de retraite? C'est non pour les premiers concernés. Grève et manifestation à l'appel de la CGT aujourd'hui, rejoint par Sudrail dans les gares, d'où cette journée serrée dans les trains. 2 intercités sur 5, 3 TER sur 5, 1 transilien sur 2.
8h08, Florence, ce serait une surprise.
Oui, une rencontre entre Donald Trump et le président iranien Rouhani à l'ONU, pas à l'ordre du jour, mais pas totalement exclu. Hier, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Boris Johnson ont rejoint le camp de ceux qui accusent l'Iran d'être derrière les frappes du 14 septembre contre des sites pétroliers saoudiens, ce qui n'a pas, Christian Chesneau, empêché le président français de s'entretenir longuement avec Hassan Rouhani dans la soirée.
La rencontre s'est déroulée dans un salon au 28e étage d'un palace new-yorkais à côté de l'ONU. Emmanuel Macron et Hassan Rouhani se connaissent bien, ils se parlent régulièrement au téléphone. Leur entretien a duré 2 heures. Emmanuel Macron a exhorté l'Iran à prendre le chemin de la désescalade et proposé de travailler sur la sécurité régionale, notamment la question du détroit d'Ormuz. Plus tôt dans la journée, le président français avait précisé les objectifs de sa médiation.
Vous savez le travail que conduit la France depuis des mois, qui est un travail consistant à essayer de bâtir des propositions pour éviter l'escalade. Et donc, je ferai tout pour que les conditions de discussion se créent. Moi, vous savez ce qui m'importe, hein, c'est la stabilité, la sécurité de tous les pays de la région qui peuvent être frappés par, aujourd'hui, des frappes ponctuelles et par un processus d'escalade que nul ne maîtriserait.
Entre les foucades de Donald Trump et l'intransigeance des Iraniens, la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron est étroite. S'il n'y a pas d'éclaircie à New York, prévient un diplomate iranien, nous allons entrer dans une période de grande tension. Dans ce contexte, la déclaration commune de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, pays signataire de l'accord nucléaire de Vienne, qui impute les attaques contre les sites pétroliers saoudiens à l'Iran, met un peu plus Téhéran sous pression internationale. New York, Christian Chesneau, France Inter.
Et en attendant la journée, le discours de Donald Trump à la tribune des Nations Unies et les mots qu'il emploiera à propos de l'Iran. Y aura-t-il 2 premiers ministres en Israël, Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, en alternance, comme ce fut le cas dans les années 80 entre Shimon Peres et Yitzhak Shamir? Les 2 rivaux arrivés en tête des législatives la semaine dernière sont en pleine négociation pour former un gouvernement d'union. Au président Rivlin, désormais, de choisir comment sera dirigée cette nouvelle équipe de droite qu'on attend plus centriste que la précédente. Et puis 2 cours suprêmes vont rendre 2 décisions très attendues aujourd'hui. La première à Londres, qui devra dire si Boris Johnson avait bien le droit de suspendre le Parlement avant une échéance fatidique sur le Brexit. La seconde à Madrid, qui tranchera sur l'exhumation de la dépouille de Franco du mausolée dans lequel il repose. Priorité du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez que contestent les descendants du dictateur.
Il est 8h10, Florence. Monsieur est en prison, c'est donc Madame qui officie à Levallois-Perret.
Et oui, Patrick Balkany à la santé. C'est Isabelle, elle aussi condamnée pour fraude fiscale, mais laissée en liberté pour raison de santé, qui a présidé le conseil municipal de la ville hier soir. Et comme on pouvait s'y attendre, Morgane Auclin refait, la soirée a été animée.
C'est par un mot de son mari qu'Isabelle Balkany ouvre la séance.
Je voudrais simplement dire que le maire m'a chargé de vous transmettre son amitié et son affection.
Très vite, les huées s'élèvent contre l'opposition.
Madame le maire, s'il vous plaît, est-ce que je peux terminer ?
Terminez, mon cher !
Mais la tension monte d'un cran avec l'intervention de la socialiste Anne Genifort.
Merci, madame le maire suppléant. Je voulais, puisque vous donnez des indications...
Mais laissez, madame Faure a toujours eu un humour débridé.
Chaque fois, Isabelle Balkany réplique, mais à part quelques joutes verbales, l'ordre du jour est adopté sans encombre, même le paiement des avocats de Patrick Balkany pour le défendre après son agression il y a 2 semaines ne suscite qu'une question.
Vous me confirmez bien que cette protection
mais bien entendu,
que sur cette affaire. Merci madame.
Aucune attaque franche contre Isabelle Balkany ou son mari, c'est sous les applaudissements du public qu'elle est repartie.
Un ancien ministre de la Justice devant la Cour de Justice de la République, c'est Jean-Jacques Urvoas qui, à la toute fin du quinquennat Hollande, a transmis au député de droite Thierry Soler des informations sur une enquête qu'il visait. Jean-Jacques Urvoas reconnaît les faits qui ne constituent pas pour lui une infraction. Toute critique doit-elle être justifiée ? Ça n'est pas un sujet du bac, mais un sujet pour la justice, saisi par le chef cuisinier Marc Vera contre le guide Michelin qui a retiré sa 3e étoile à son restaurant La Maison du Bois. Il veut sa savoir pourquoi, après avoir fait une dépression, j'ai été déshonoré, dit-il. Attention, c'est un tueur qui arrive en Île-de-France. Un champignon ravageur de platanes, le chancre coloré qui a décimé 23 000 arbres le long du canal du Midi, a été repéré à Antony, dans les Hauts-de-Seine. C'est la première fois sous cette latitude. Alors pour éviter la contagion, 14 platanes vont être abattus. C'est un reportage de Sébastien Sabiron.
Des platanes de 30 mètres de haut, décharnés comme en plein hiver. Plus aucune feuille sur les branches. Le long de la D920, les arbres malades sont désignés par une croix peinte sur le tronc. Vincent, passant, un peu dépité.
Ah, moi, je trouve ça triste de couper ces magnifiques platanes.
C'est pourtant la seule solution pour éviter la contagion, notamment aux 1500 platanes centenaires du domaine de Sceaux, à moins de 2 km. Christian Lemoyne, directeur des parcs et jardins au conseil départemental des Hauts-de-Seine.
La contamination peut se faire par des élagages, par des outils qui ne sont pas bien nettoyés, ou des tranchées de voirie ou d'assainissement qui créent des plaies dans les arbres. Donc je pense qu'il était très important d'établir un diagnostic précoce pour éviter une contamination future.
Et l'abattage devra se faire selon des règles très strictes, une opération 10 fois plus coûteuse qu'à l'accoutumée. Olivier Péchama, directeur de la Frodon, une fédération d'organismes spécialisés dans les végétaux.
L'abattage de l'arbre nécessite de prendre des précautions pour éviter la dissémination. Il faut bâcher le sol, il faut sécuriser les transports pour éviter les disséminations des sciures pendant les déplacements et l'incinération à la sortie.
Après abattage, les platanes d'Antony seront remplacées par une autre essence, car il est interdit pendant 10 ans de replanter des platanes dans une terre infectée par le chancre coloré.
Sébastien Sabiron, fin de la crise au Monde. Les actionnaires principaux du journal se sont mis d'accord. Xavier Niel et Mathieu Pigas acceptent de se soumettre au droit d'agrément imposé par le pôle indépendance du quotidien qui regroupe le personnel et les lecteurs. Ils auront un droit de regard sur l'évolution du capital du Monde, ce qu'il réclamait depuis l'arrivée du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.
Il est 8h14, Florence, quand la musique, la danse et la peinture s'entremêlent.
Le musée d'Orsay célèbre les 350 ans de l'Opéra de Paris à partir d'aujourd'hui avec une exposition temporaire consacrée au peintre Degas. On connaît les danseuses de l'impressionniste, mais Bastien Munch, son œuvre a embrassé tous les personnages de l'opéra.
Dès le début de l'exposition, il y a d'abord cette voix. Celle de la chanteuse Rose Caron dans Sigurd en 1885. Celle aussi qu'Edgar Degas est venu écouter plusieurs fois à l'Opéra de Paris. L'une de ses nombreuses inspirations, toutes réunies dans une même exposition pour la première fois. Henri Loirette est le commissaire général de l'exposition Degas à l'Opéra.
On a eu tellement d'expositions sur Degas et les danseuses. Mais les danseuses, c'est un aspect très particulier, effectivement, des liens de Degas avec l'opéra. Et pour la première fois, On considère l'opéra dans son entier, c'est-à-dire la maison, les gens qui le peuplent, les danseuses, les musiciens, etc. Il va faire de l'opéra le point central de ses travaux.
Point central qui dévoile au fil de l'exposition toutes les expérimentations de Degas, des petites filles spartiates provoquant des garçons en 1860, prémices des mouvements des danseuses, au modèle justement de la petite danseuse de 14 ans, seule sculpture exposée de son vivant en 1881. Tout paraît si réel, et pourtant Degas et l'opéra, c'est d'abord une histoire de fantasmagorie. Henri Loirette.
Degas recrée son opéra, c'est un metteur en scène, il n'a pas un point de vue de spectateur. Je dirais, il donne une image de l'opéra qui correspondrait exactement à ce qu'il voudrait qu'il soit.
L'exposition de Degas à l'opéra fera escale à la National Gallery de Washington, partenaire de l'exposition, à partir de mars 2020.
Voilà, courons à Orsay jusqu'au 19 janvier. On a un petit peu le temps pour terminer ce petit tableau que tous les musées italiens rêveraient d'avoir. Le Christ moqué de Cimabue, un primitif italien du XIIIe siècle. Il se trouvait dans un pavillon de Compiègne dans l'Oise, accroché entre la cuisine et le salon chez une vieille dame qui l'a fait expertiser. Verdict, 4 à 6 millions d'euros pour ce trésor peint à l'œuf sur fond d'or. Il sera mis en vente à Senlis le 27 octobre.